Bien, effectivement, ça fait plaisir de se revoir de près, même si on a eu l'occasion, durant tous ces temps, grâce à la technique, et aux spécialistes de la technique, qu'on remercie profondément pour son travail, son gros travail de préparation, d'organisation. Mais c'est quand même encore un petit peu différent quand on est au de près. Oui. Ces techniques nous ont permis quand même de nous réunir et de continuer d'avoir notre prière. C'est ce qu'on a beaucoup apprécié, nous, depuis la Suisse, ce qui n'était pas possible pour nous autrement. Et durant notre prière, plusieurs fois, Alain nous a proposé des lectures dans le psaume 119. Et puis, en plongeant un peu là, ça m'a vraiment impressionné. Très intéressant ce psaume, puisqu'on pouvait en ressortir. Parce que d'habitude, lorsqu'on s'attaque au psaume 119, qui est le plus long psaume des psaumes, qui est le plus long chapitre de toute la Bible, si on veut arriver au bout, il ne faut pas trop s'attarder. Ces 176 versets sont, il y en a pour un mois à les lire. Et puis, en tout cas pour moi, on a peut-être tendance à aller un peu vite par-dessus. Et là, j'ai pris le temps de m'arrêter un peu. Je n'ai pas fait un travail de savant, j'ai simplement ouvert la Bible, et puis dans la Bible, il y a une colonne avec des références, des petites lettres qui nous renvoient à gauche, à droite, dans la parole. Et c'est vraiment super intéressant de découvrir, enfin, pas tout, mais un peu de ce qu'on peut, cette nourriture qu'on trouve dans ce psaume. Ce psaume, il est un peu particulier parce qu'il est préparé en hébreu pour pouvoir être appris par cœur et pour pouvoir s'en souvenir. Donc, il est basé sur les 22 lettres de l'alphabet hébreu et chacune de ces lettres est représentée dans une section, 22 sections, donc de 8 versets. On en a une ici, la première. Chaque verset commence par cette lettre de l'alphabet hébreu. Donc la première section commence par, chaque verset commence par la première lettre de l'alphabet hébreu, la deuxième section, la deuxième, etc. 22 fois 8, ça nous donne 176, donc le psaume complet. Vous pouvez penser que c'est un peu un exercice de style, parce qu'en plus de ça, pratiquement tous les versets, à l'exception de 3, citent la parole de Dieu. Sous un nom ou sous un synonyme qui peut un peu varier d'un verset à l'autre. Quelquefois, c'est des préceptes, quelquefois, c'est des promesses, quelquefois, c'est des lois, commandements, etc. Mais toujours, ça se rapporte à la parole de Dieu. Donc, voilà, c'est répétitif. Mais en même temps, c'est pas inutile et ça nous démontre que la parole, la Bible qu'on possède chacun, trois fois rien qu'on peut obtenir, est vraiment la parole de Dieu et puis a son importance dans nos vies continuelles. Ce psaume commence par heureux. Alors c'est un bon augure. Si on peut récupérer et trouver un peu de bonheur. Il commence par heureux, tout comme le premier psaume du livre des psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1, verset 1. Ce psaume nous donne le truc pour être heureux. Et ici, le premier psaume, c'est ce qu'il ne faut pas faire pour être heureux. Pas marcher sur le conseil des méchants, d'abord on va avec, puis ensuite on s'arrête avec sur la voie des pécheurs et finalement on se trouve assis avec eux et puis en leur compagnie. Dans le psaume 119, celui qui nous intéresse aujourd'hui, il y a aussi la recette pour être heureux, mais ici c'est pas ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il faut faire pour être heureux. Heureux ceux qui sont intègres. Voix qui qui marche selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. De tout leur cœur. Voilà un point important. Ce n'est pas juste quelque chose à l'occasion. Ce n'est pas juste réservé au dimanche matin, mais c'est intensément et de façon absolue. Jérémie, on trouve un verset comparable qui conclut celui-ci, où Dieu dit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il y a une promesse pour ceux qui vraiment le cherchent de tout leur cœur. Si on ne se trouve pas, peut-être qu'il y a un problème dans notre cœur qui n'est pas totalement absolu. On le dit ensemble, hein, qu'il ne commet point d'iniquité, qu'il ne marche pas, qu'il marche dans ses voies. Tu as prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin, de nouveau là, de tout notre cœur et avec soin, attentivement. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Si on inverse une phrase, on obtient je vais garder tes statuts si je garde tes statuts, mes actions vont être bien réglées. C'est vraiment là. L'assurance de l'importance de la parole et qui va être garantie à long terme pour nous aussi. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Quelquefois, lorsqu'on n'est pas à l'aise vis-à-vis des prescriptions de ce que Dieu nous demande, il y a de quoi avoir honte, et puis ça serait souvent une bonne chose. Ici, en réglant ses actions, en gardant ses statuts, on va arriver à une situation où on n'a pas besoin de rougir devant, quand on lit la parole, on n'a pas besoin d'être condamné, repris, parce que nos actions seront réglées selon cette parole. Dans Timothée, Paul l'écrit à Timothée, il dit, ceci, efforce-toi de te présenter devant Dieu, donc devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. On peut être entraîné à dispenser la parole ou à parler de la parole, de la Bible, avec des détours, en arrangeant pour que ça nous convienne bien. Et Paul ici nous exhorte, Timothée, mais nous aussi, à dispenser droitement, de façon ligne, comme elle est écrite, puis sans chercher des détours. Et alors, je te louerai dans la droiture de mon cœur, et ceci en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Là, le psalmiste réalise, j'ai beau vouloir, j'ai beau mettre tout mon cœur, je risque quand même de m'égarer, et j'ai besoin de l'aide du Seigneur, il dit, ne m'abandonne pas entièrement. On a des fois l'impression d'être abandonné par le Seigneur, ou de tout voir très bien, il est dans le brouillard, il a disparu de nos vues, de nos vies peut-être, à cause des épreuves, à cause des situations, mais à cette demande du psalmiste ici, ne m'abandonne pas entièrement, Dieu répond des choses magnifiques. Ésaïe 54:10, c'est un verset assez fantastique. Dieu dit quand les montagnes s'éloignent. Donc, beaucoup de montagnes s'éloignent, il faut déjà quelque chose, même si ça arrivait. Quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Notre confiance va être remontrée, la compassion de Dieu, et là, c'est Dieu qui entre en œuvre. C'est le Créateur, c'est celui qui tient les montagnes en place, qui va agir et qui va mettre exécution sa parole. Déjà, dans Genèse, lorsque Jacob s'enfuit loin de son frère, Dieu va lui parler. Il n'est pas dans une position forcément très extraordinaire, ce Jacob, après ce qu'il a fait, mais Dieu lui dit, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Dieu parle et puis sa parole doit être mise à exécution, elle doit arriver à la maturité, elle doit se produire. Quoi qu'il en soit, malgré les circonstances, malgré tout ce qu'on peut imaginer qui ne se passe pas comme on le voudrait, eh bien, ça va être la réalité. Par rapport à ce fait de ne pas rougir au verset 6, malheureusement, je n'ai pas les mots du verset dans le diapo, où il est dit, alors je ne rougirai point. Alors, j'ai mis aussi une parole qui est assez solennelle. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ce piton. C'est bon, des fois, arriver à une situation où on a honte de ce qu'on est, de ce qu'on a pu faire, de notre incrédulité devant Dieu. Et il y a aussi un passage qui est intéressant par rapport à rougir dans Ézéchiel 34, qui nous dit, toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. On peut montrer, Dieu nous montre une partie de ses exigences, de sa parole, de sa bonté. Et puis on doit prendre connaissance dans la Bible, et ceci devrait nous amener à rougir, à avoir honte, à s'humilier, à la repentance. Et alors, s'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison. Lorsqu'on arrive à reconnaître ce qu'on est en tant qu'homme pécheur éloigné de Dieu, rebelle, lorsqu'on approche de la parole, on commence à voir un peu la maison. Si on se repent, alors la possibilité nous est offerte d'entrer dans la maison et de bénéficier, de découvrir beaucoup plus des richesses de cette maison. Donc, n'ayons pas, résistons pas à la honte qui est la nôtre lorsqu'on se confronte avec la parole, mais acceptons le verdict de Dieu. Pour que ça puisse changer. Si on voit la section suivante, les versets donc 9 à 16. Comment le nom? Voilà, c'est tout à fait ça. Comment, donc, le psalmiste a approché la parole, il a pris conscience de la situation, de sa situation, de la différence entre son niveau et le niveau de Dieu, et il creuse un peu plus, il s'approche un peu plus, et puis il va dire comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. De nouveau là, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. De tout mon cœur. Dans 2 Chroniques, il y a un verset qui est là. Judas se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. De tout notre cœur. C'est donc important de ne pas être superficiel, de ne pas dire plus tard, ouais, ça peut être intéressant, tout à considérer. Mais une fois plongé dans la situation, il faut notre cœur. Et il peut dire ici, mais il s'engage, le psalmiste, il va de sa propre, quelque peu de sa propre force. Et dans cette section, on trouve beaucoup de jeux. Je te cherche de tout mon cœur, ne laisse pas garder loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Enseigne-moi tes statuts, je toutes les sentences de ta bouche, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors, je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, et je fais les délices de tes statuts, je n'oublie pas ta parole. C'est un bel engagement et c'est une belle décision de sa part. On va constater plus tard que ça ne va pas tout à fait suffire. Mais c'est l'attitude de quelqu'un qui veut faire le bien, qui veut chercher le Seigneur, qui veut appliquer, mettre sa vie au service et en ordre avec les exigences du Seigneur, ses lois, ses statuts, ses sentences de sa bouche. Ça nous rappelle la situation de l'apôtre Paul quand il parle dans Romains 7. Il dit, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi, je fais le mal que je veux pas, mais je fais pas le bien. Là aussi, dans ce chapitre, qui est l'expression de quelqu'un qui veut vivre pour Dieu par ses propres forces, eh bien, c'est le je qui vient d'avant. Et dans Romains 7, plus de 40 fois, il y a je, moi, moi-même, jusqu'à qu'il arrive à la fin de son chapitre, qui me délivrera de ce corps de mort et qui découvre que Jésus-Christ l'a fait. Dans la section suivante, il continue un peu sur la même longueur, je fais du bien pour serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole, ouvre mes yeux pour que je contemple. Il commence à prendre conscience que par lui-même, ça ne marche pas, s'il n'arrive pas au standard que la parole nous demande. Et il va arriver ici, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Voilà la résultat de celui qui veut vivre pour Dieu, qui veut vivre, mettre en pratique la parole de Dieu, qui veut être un bon chrétien, et puis par ses propres forces, et puis il arrive finalement à être brisé. C'est même une autre chose. C'est le moment de l'arrivée là. Cet aspect de l'âme brisée, c'est Job, on avait vu Job un certain temps maintenant, on avait vu Job, toutes ces épreuves, toutes ces maladies, tout ce qui lui arrive, tous ces mauvais conseils, il en arrive quand Dieu se révèle à lui à dire, j'ai horreur de moi. C'est pourquoi je dis horreur de moi, condamne, je me repens. Il arrive à cette constatation que lui, malgré tout ce qu'il fait de bien, malgré qu'il était un homme intègre et droit, eh bien, devant Dieu, on est loin, loin, loin du standard qu'il faudrait obtenir. On a besoin de quelqu'un qui vienne à notre secours. On a un exemple de brisement dans Marc, lorsque Marie vient avec son vase d'albâtre. Base, et puis qu'elle brise pour que le parfum puisse être répandu. Ce qu'on pense savoir, ce qu'on met de l'importance, à un moment donné, ça devrait arriver à être brisé. Et alors, le Christ qui est en nous, par sa vie, pourra ce parfum pourra se répandre autour de nous. Dans le psaume 51, aussi un peu la même pensée. Ce psaume 51, c'est le moment où David prend conscience de son péché, des graves choses qu'il a accomplies, et puis qu'il est brisé, en quelque sorte. Et il peut dire, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. C'est pas très réjouissant de penser qu'on est cassé, qu'on est brisé, mais quand on regarde ce que le Seigneur a fait, eh bien, dans cette situation-là, on est disposé, on est dans la bonne condition pour pouvoir être réjoui, pour pouvoir qu'on nous annonce l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouissent. En fait, c'est Dieu qui a brisé les os du roi David ici, malgré que c'est David qui a péché. Mais sa repentance, la prise de conscience que c'est devant Dieu qu'il a commis ces horreurs, le brise. Puis c'est vraiment très positif lorsqu'un homme arrive à cette conclusion, je suis rien, je ne vaux rien, et puis malheur à moi, parce que je suis un homme pécheur, je suis perdu. Alors, c'est dans la semaine, la fin de ce chapitre où le croyant dit je veux, j'arrive pas, etc. Il arrive à cette conclusion misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur veut la gloire pour nous tous, il veut toute la gloire pour lui. Il ne va pas nous laisser Nous avons connu, tu pensais que finalement on est un petit peu pour quelque chose. Et cette situation sort le psalmiste ici de son problème en quelque sorte, et il va pouvoir dire des princes, en autorité, des gens à craindre, ont pour s'asseoir et parler contre moi, je me réfugie donc. Ton serviteur médite les statuts. Il va plus dire je les observe, mais je me nourris de ces statuts, je lis la Bible, je m'inspire. C'est ma nourriture, c'est ce qui me permet de survivre. Tes préceptes sont mes délices, ce sont mes conseils. Ensuite, dans la section suivante, il va dire, mon âme est attachée à la poussière, malgré qu'il découvre que le Seigneur est son aide, que le Seigneur est sa joie, que le Seigneur est tout pour lui. On doit toujours beaucoup constater que notre âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. L'âme, c'est donc la personnalité de l'être humain, c'est notre personnalité, c'est notre moi, c'est notre intelligence, nos raisonnements, c'est nos sentiments, c'est aussi notre volonté. Eh bien, par nous-mêmes, ça c'est insuffisant, ça reste au ras des concrets, ça reste dans la poussière. Et dans le psaume 44, il est dit car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. C'est le Seigneur qui peut le faire, c'est à lui qu'on doit s'adresser. Pour le faire, on n'a rien à essayer de s'améliorer avant de s'approcher de lui. On doit simplement constater qu'on a besoin 100% de lui. Il va dire là, je raconte mes voies, tu m'exauces. C'est une sorte de confession, raconte ses voix, qui met, on va se faire le Seigneur, avec un tel Dieu au-dessus de nous, avec une telle possibilité. Eh bien, on peut raconter nos voix, on peut raconter au Seigneur, déverser notre cœur devant lui, dire voilà ce que je suis, je me sens mal, ce n'est pas ce que je voudrais, voilà mes erreurs. Et puis, on peut raconter ses voix, et alors tu m'exauces, c'est pas, c'est lui qui va nous exaucer. Alors enseigne-moi tes statuts. De je, qui avait beaucoup avant, ça vient plutôt maintenant, toi, tes statuts, tes merveilles, fais-moi connaître tes voies. Donc, enseigne-moi tes statuts. Enseigne-moi, fais-moi. C'est plus je fais, mais j'ai besoin de toi. On a besoin que le Seigneur le fasse en nous. Fais-moi comprendre tes voies, tes ordonnances, je méditerai tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi, cela ta parole. De nouveau, l'âme, la personnalité du quelque chose présent qu'on a toujours, eh bien, pleure de chagrin, littéralement, ce serait écrit mon âme tombe de chagrin. Voilà cette opposition ici entre tomber et se relever. Moi je tombe, mais toi tu me relèves. Selon ta parole, de nouveau là, on peut appuyer sur ce que Dieu dit et pas sur nos illusions, sur nos raisonnements, mais la parole est vraie, mais ce n'est pas pour rien que dans chaque verset, la parole revient sous une forme ou sous une autre, et puis c'est matraqué continuellement. Enseigne-moi, éloigne de moi la voie du mensonge. Réalise que lui, par lui-même, il pourrait facilement tomber dans le mensonge, mais si lui, si le Seigneur est là pour nous soutenir, eh bien, accorde-moi la grâce de suivre ta loi. On n'aime pas tellement les lois, hein, on n'aime pas tellement les ordonnances, fais ceci, fais cela, mais ici, il constate que pour lui, c'est plus des exigences, c'est plus un devoir, mais il parle d'une grâce, grâce de suivre ta loi. Je place mes lois sous mes cieux, je m'attache à tes préceptes, éternel ne me rend point confus. Je cours dans la voie de tes conseils, guide dans la voie de tes commandements, quand tu auras mis mon cœur au large. On a besoin que le Seigneur nous libère de nos oppressions, de tout ce qui nous retient, qui nous empêche d'avancer. C'est lui qui va mettre notre cœur au large. Et alors, à ce moment-là, on pourra courir dans la voie. On pourra courir. Courir, c'est plus que marcher, c'est vraiment avancer de bonne manière. Dans la section suivante, là, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence. C'est toujours une demande auprès de Dieu. Fais-moi, donne-moi, enseigne-moi, c'est plus moi je veux le faire. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Sa demande, ça correspond à ce que Jacques nous rappelle. Si quelqu'un d'autre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, il lui sera donné. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. On y met les autoroutes qui sont toutes plates, qui sont lisses, qui vont bien, les sentiers, des fois sont un peu escarpés. Eh bien, ici, il en arrive, le psalmiste en arrive à souhaiter être conduit dans le sentier parce qu'il aime le sentier. Il aime ce sentier qui est généralement plutôt étroit, plutôt peut-être un peu escarpé, mais il aime le sentier. Par rapport au sentier, il y a ces autres versets dans le psaume 119, peut-être pas jusque-là, mais. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de nouveau, qui est une lampe à nos pieds. La parole n'éclaire pas des kilomètres devant, elle éclaire l'un pas après l'autre, elle éclaire juste à nos pieds et une lumière sur mon sentier. Et puis dans le psaume 23, c'est absolument magnifique. Il me conduit dans les sentiers de la justice, la justice de Dieu, sa justice. Et il le fait pas à cause de. Parce qu'on est volontaire, pas parce qu'on est fidèle, pas parce qu'il le fait à cause de son nom à lui, par respect pour défendre sa gloire, ses intérêts, eh bien, il va conduire lui-même dans les sentiers de la justice. C'est vraiment le pire qu'on peut faire, il le fait continuellement. Tu le fais, mais tu le fais à cause de ton nom. Il y a toujours cette dualité qui est là, notre âme, notre personnalité, elle est toujours là. Et puis on a toujours tendance à refaire surface, donc on a continuellement besoin de revenir. C'est pas dire, oh, le Seigneur l'a fait maintenant, tout bon, j'ai plus à me préoccuper de rien. On a toujours besoin de lire la parole, de revenir à la parole, de se nourrir de cette parole pour ne pas dévier de là, détourne, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le bien. Notre cœur qui a toujours tendance à pencher d'un côté ou d'un autre, s'il peut déjà pencher du côté du précepte de l'Éternel, ben, il va moins facilement pencher de l'autre côté, de gagner d'intérêt personnel. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. C'est vraiment une tactique de Satan d'être toujours là en train de nous faire briller, nous voir nos alouettes, nous montrer c'est super, il te manque ceci, il te manque cela. Eh bien, la parole, le fait de plonger les regards dans la parole va nous aider à fixer les regards sur Christ et non pas sur, que ce soit le gain, mais le gain financier ou un gain de notoriété ou un gain de paraître. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. La promesse est de nouveau là. Il y a une espèce de condition. Ceux qui te craignent, eh bien, peuvent penser que la promesse de Dieu va s'accomplir. Et craindre, ce n'est pas trembler de peur, mais c'est respecter. Je incline mon cœur. Dans le proverbe, il y a un verset très connu, comme une chanson pour les enfants. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Plus que toute autre chose, on peut garder une possession, on peut garder. Mais ce qu'il faut garder, c'est l'intégrité de notre cœur. Et à la fin, il va dire, voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. Fais-moi vivre dans ta justice. Cette vie-là, c'est une vie de résurrection. C'est la vie de Christ qui vient en nous et qui peut se manifester pour autant que notre vase soit brisé au travers de nous. Et la justice de Dieu, c'est quoi la justice de Dieu? Dieu, il est juste. Et j'aime beaucoup ce passage dans Romains 3 qui dit il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi de Jésus. Dieu n'est pas juste envers moi en passant l'éponge sur mes fautes, mais il est juste envers Jésus parce que Jésus a pris la faute, a payé la dette à ma place. Donc, si Dieu ne pardonne pas, il ne serait pas juste vis-à-vis de Jésus. Alors, il est juste vis-à-vis de Jésus en me justifiant. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est tellement précieux de savoir que ça ne dépend pas de la qualité de notre repentance, de la qualité de nos larmes, de la quantité, mais ça dépend devant Dieu de ce que lui a accompli. Dans diapo suivante, dans la section suivante, on arrive gentiment au verset 40 et 41, on est loin du 150e verset, mais n'ayez crainte, j'y arriverai pas non plus. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Là, il commence de témoigner. Il n'est plus tellement centré sur lui-même, mais il va vraiment à Dieu, et c'est une progression normale. Croyant, c'est de plus en plus détourné de lui-même pour regarder à ce que Dieu est, à ce que Dieu a fait. Ta miséricorde vient sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Se confier, ça peut aussi être compris, comme ça signifie aussi se réfugier, se reposer, s'appuyer sur, s'attendre à la parole. S'appuyer sur la parole, se reposer sur la parole, ça va permettre d'être équipé lorsque l'adversaire, lorsque l'accusateur veut nous déstabiliser. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Dans l'autre sens, si je recherche les ordonnances, je m'en vais marcher au large. Et Proverbe nous dit, si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras pas. Dieu nous donne des promesses, des garanties de pouvoir avancer, même si, indépendamment de ce qui nous semble être le cas juste aujourd'hui. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Voilà de nouveau cet aspect de rougir. Verset 6, au début, on avait vu rougir à la vue de ses commandements, c'est avoir honte. Ici, c'est ne pas rougir avant d'être libre de témoigner. Donc, Jésus dit à ses disciples, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez. Donc, je parlerai de tes préceptes devant les rois, du maître du temps, de commander, eh bien, on peut aller sans inquiétude, ni de la manière de parler, ni de ce que vous direz, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. On peut être dans l'habitude, on peut être assez sûr de nous, mais on a la parole qui nous donne des promesses et des garanties. là, j'aime tes statuts, tes commandements que j'aime, je veux et tes statuts. On arrive là maintenant au paragraphe suivant. C'est plutôt là un sujet de consolation, d'encouragement à persévérer dans les difficultés, dans la contradiction. Parce que c'est aussi vrai que quand tout va bien, on a tendance à se relâcher et puis à plus avoir tellement besoin du Seigneur. Mais c'est vraiment quand tout va mal que la parole devient précieuse pour nous. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Mon espérance repose sur ta promesse. Alors ne m'oublie pas. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Notre vie spirituelle dépend pas de notre marche. Dépend de la promesse de Dieu. Et alors, la promesse s'exécutant, notre vie va être la vie. Mais là, je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Il y a le psalmiste, et puis on trouve aussi de temps en temps dans ces situations. Le moment présent, tout est trouble, tout est à travers, on est dans les nuages, mais le Seigneur n'est pas très loin. Et là, il est bon de penser au jugement d'autrefois, et ça va être une consolation. De se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous, de se rappeler les délivrances et merveilles qu'il a déjà accomplies. Là, il y a ce passage qui me touche tout à fait personnellement et j'aime bien remémorer. C'est le moment où Jésus est sur la barque, puis il vient d'avoir un miracle de multiplication des pains et tout. Et puis Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, puis eux, ils sont déjà dans le terre à terre. Ils disent, ouais, c'est parce qu'on a tout pris du pain. Alors Jésus profite de l'occasion pour lui remettre le pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Il viendra nous demander, mais réfléchissez. Quand j'ai multiplié cette pain, il y a eu combien de paniers de restes? Et finalement, il y a eu plus de restes qu'au départ. Et puis d'autres fois, la même chose. Alors, souvenez-vous. Vous êtes encore sans intelligence, mais rappelez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? On peut avoir le cœur qui devient dur, épais, et mais, dur, impénétrable pour la parole. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous point de mémoire? On doit, oui, Jésus nous rappelle là, nous souvenir des choses du passé, pas pour les ressasser simplement, mais pour nous donner, nous consoler, nous donner du courage pour aller de l'avant. Des yeux pour lire la parole, vous avez des oreilles pour entendre les messages. Est-ce que vous avez pris de moi? Le Seigneur ne soigne pas toujours avec des tartes à la confiture bien sucrées, là, bien agréable. Des fois, il nous secoue un peu, là, il nous dit, mais réfléchis un peu, qu'est-ce que la promesse. Qu'est-ce que tu oublies? Et là, il va réaliser qu'une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. On a un peu tendance à oublier que, oui, on veut un Jésus tout bon, qui nous passe la pommade, qui nous soigne, qui nous chouchoute. Et puis, on oublie l'aspect de la colère. Dieu peut être en colère, il ne peut pas être simplement. C'est pas pour rien qu'il a donné son fils pour mourir à notre place, c'est pour que le péché soit traité. Et quand on voit le péché qui règne, alors il y a de quoi être en colère, et puis ce n'est pas forcément un défaut de nous aussi, de rester indifférent quand on voit l'état du monde qui se permet bien une certaine colère qui lui apparaît. Déjà, ici dans l'Exode, lorsque Moïse reçoit les tables de la loi, les prescriptions, les choses à faire qui correspondent à la volonté de Dieu, mais il n'est pas encore arrivé au camp pour donner la loi, que déjà cette loi est brisée et rompue. Il n'y a plus de choses à faire, c'est de casser, de briser ses pierres dans la colère, par colère. Et puis, l'autre passage, je trouve assez intéressant aussi, c'est lorsque Jésus va ressusciter Lazare. Il va au tombeau et puis il voit les gens pleurer. Et puis Jésus a voulu pleurer et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et puis tout est frémit en pense que Jésus a juste eu un frisson de voir ces gens pleurer et ému de compassion pour eux. Oui, il y a eu cet aspect-là. Mais ce terme frémit, si on va chercher dans le sens profond de ce terme, eh bien, ça explique donner un sérieux avertissement, menacer pour enjoindre. C'est un mot qui vient de relâcher avec colère. Dans ce frémissement, il y a quelque chose de la colère, oui, et fâché de voir le résultat du péché, de voir où Satan a aussi d'après l'homme pour l'amener. Qui n'était pas prévu pour la situation pour l'homme avant la chute. Jésus est capable d'avoir la colère en voyant le péché. On ne peut pas aller vers lui, hein, tu vois, comme je peux me permettre de faire ceci, cela. Lui, il a payé pour ça. Lui, il a donné son sang pour que ces choses puissent être réglées. Et si on joue avec, si on néglige, on tombe sous la colère, sous une forme de colère de Dieu. Je redonne ta voix et tes statuts. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Le nom de l'Éternel. Dans le Cantique des Cantiques, la Sulamite, la fiancée, dit à son fiancé, qui représente Christ, ton nom est un parfum qui se répand. On a déjà vu que lorsque Marie casse son vase, le parfum se répand. Eh bien, la personne de Christ, son nom, pour ceux qui croient, c'est juste un parfum. Et le parfum, c'est, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le prendre un morceau, il se répand de lui-même, on ne peut pas l'arrêter non plus. C'est un parfum, le nom de Jésus. Et la prière que tout le monde récite et connaît, que ton nom soit sanctifié. Ça doit aussi être notre attitude, notre désir. On pourrait continuer, mais je pense que c'est à peu près l'heure. Je vais juste conclure avec plus loin, mais ce n'est pas nécessaire qu'il y ait juste là, au verset 73. Je l'ai dilaté, même au créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. En lisant ce verset, je pensais un peu bizarre, on se dit, voilà, Dieu nous a fait, c'est lui qui sait comment ça fonctionne, c'est lui comment ça marche, physiquement, mécaniquement, aussi dans notre intelligence, dans notre psychisme. Lui, il connaît le truc, c'est lui qui l'a fait. Quelquefois, avec les enfants notamment, voilà, ils ont trouvé un nouvel appareil, ils disent, et ben, et puis ils mettent la prise, ils pressent le bouton, ça va marcher, on regarde comment ça marche. Puis le candidat, ne tente pas d'abord, pas faire une pause malheur, pas tout cacher, pas tout oublier, avant d'avoir un premier. Eh bien, Dieu nous a fait, et puis il nous a donné dans la parole, il nous a aussi donné un bouton de foi. Comment procéder? On a besoin de lire le mot d'emploi pour, avant de prendre des décisions, avant de dire ça doit être comme ça, puis ça va marcher comme ça, ou ça ne marche pas comme ça. Le mot d'emploi, on a le responsable d'en avoir lu, si ça ne marche pas, il faut pas calmer. religion, je vais citer le verset d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 12. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Ce qui m'a frappé, c'est que Dieu va juger le mal, bien sûr. Ça ne tolère pas. Il va même juger le bien. Ce qu'on pense être bien, ça doit encore passer par l'appréciation de Dieu, puis il va nous dire encore si tu crois que c'est bien, mais c'était ton idée à toi. Est-ce que notre bien supporte le jugement de Dieu? On a besoin de s'approcher de lui et de s'humilier devant lui et de reconnaître que nous, on est rien, que lui est tout. Mais il y a quand même un verset encourageant dans Écho 12. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. La foi, elle vient de Jésus, c'est lui qui la suscite, c'est lui qui donne la pierre. Et puis il va vraiment se contenter de donner la foi qui est un débutant, mais il va organiser les choses, disposer les situations pour justement nous entraîner et amener notre foi à être toujours plus sûre, plus ferme en lui. Donc, lisons-nous encore et puis tirons-en les conséquences pour notre vie journalière. Et puis on a des promesses qui nous amènent.